Allô, bonjour, bienvenue dans notre podcast franco-allemand. Nous sommes voisins et pourtant nous ne nous connaissons pas très bien. Pour apprendre à mieux nous connaître, nous avons créé ce podcast dans lequel nous abordons des thèmes socio-culturels, politiques et historiques liés à l'amitié et aux relations franco-allemandes.
Nous espérons ainsi consolider l'amitié franco-allemande en montrant tout ce qu'elle a à nous apporter. Nous sommes Léonie et Jessica. Et nous sommes la preuve d'une amitié franco-allemande.
Moi, je suis Léonie, une globe-trotteuse curieuse qui aime aller au fond des questions de la vie. En ce moment, j'accumule beaucoup d'expériences et je me dépasse en effectuant des stages dans le domaine culturel en Allemagne et en France.
Et moi, je suis Jessica. Je suis étudiante en management de projets culturels et en allemand. J'aime le théâtre, la photographie et raconter des histoires. J'ai grandi en France, mais j'ai aussi vécu 2 ans en Allemagne. On s'est toutes les deux rencontrées par hasard dans un café des langues et on a eu l'idée de ce podcast franco-allemand que nous créons avec l'aide de la radio ZAI, partenaire de la MJC Jacques Prévert de Aix-en-Provence. Alors Léonie, est-ce que tu voudrais commencer peut-être par nous raconter comment est-ce que tu as découvert ton amour pour la France ?
Avec plaisir. Quand je commençais à apprendre le français, j'étais fascinée par le son mélodique. Si on parle français, j'ai l'impression qu'on chante et je suis convaincue que c'est la plus belle langue du monde. Aussi élégant que la langue, aussi élégant sont la culture et les gens. La France, c'est le pays de la philosophie, de la littérature, de l'art et des esprits brillants. Et toi, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'Allemagne ?
Donc dans mon cas, j'ai voulu commencer à apprendre l'allemand parce que la structure, la complexité et aussi la sonorité de la langue m'ont toujours fascinée. Puis quand je suis allée en Allemagne, j'ai tout de suite été fascinée par les modes de vie que j'ai pu observer, comme par exemple donc le fait de se déplacer à vélo, aussi un accès plus facile à l'alimentation végétale. Et j'ai remarqué une froideur au premier abord, mais au final beaucoup de profondeur dans les relations.
Cet enthousiasme pour une autre langue ou une culture conduit souvent à vouloir la découvrir de plus près de lors de séjours à l'étranger, par exemple, avec tout ce que cela comprend comme défi.
En effet, selon une étude de la fondation allemande Bertelsmann Stiftung en 2024, au sein de l'Union européenne, les jeunes se sentent davantage seuls que les personnes plus âgées. Cette étude a été réalisée au sein de 7 pays de l'UE et a permis de constater que 57% des jeunes âgés de 18 à 35 ans y sont touchés par un état de solitude modéré.
Et parmi ces pays, on retrouve la France en tête du classement avec un taux de 63%, ce qui signifie que près de 2/3 des jeunes sont touchés en état de solitude modéré. Et tout en bas du classement, on retrouve nos voisins, les Allemands, avec 51%.
Selon la fondation Bertelsmann, la solitude est une sensation désagréable que l'on ressent lorsque les relations sociales ne correspondent pas à ce que l'on souhaite ou à ce dont on a besoin. Ce qui signifie que l'on peut se sentir seul, bien qu'on ait beaucoup d'amis.
Et pour éviter la solitude, il est nécessaire d'avoir des amitiés véritables et des échanges profonds. Parfois, ça peut paraître exigeant de trouver de nouveaux amis qui répondent à ces critères, particulièrement à l'étranger avec une barrière de langue.
Et il y a également une autre barrière, celle de la culture. Car même si les relations amicales sont des expériences personnelles, on ne peut pas nier le fait qu'elles soient fortement marquées et influencées par la culture.
On entend souvent des Français, par exemple, que les Allemands sont froids, coincés ou pas très ouverts. A contrario, on entend souvent des Allemands que les Français sont plus spontanés, chaleureux et ouverts.
On peut alors se demander s'il ne s'agit que de vieux clichés ou s'il s'agit bel et bien de différences culturelles. Cela dépend-il des générations ou des régions dans lesquelles on se trouve ? Sûrement que les relations amicales diffèrent entre Paris et Marseille ou entre Munich et Cologne.
Et pour parler de cela un peu plus en profondeur, on a invité Emma. Bonjour Emma.
Bonjour.
Est-ce que tu veux te présenter ?
Oui, alors je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, je viens de Dortmund en Allemagne. Je fais des études de LEA à Cologne avec le français et l'anglais. Et j'ai vécu 2 ans en France à Nancy.
Et est-ce que tu voudrais peut-être nous raconter comment est-ce que ça s'est passé pour toi quand tu es arrivée en France ?
Alors j'ai fait un service civique franco-allemand à Nancy. Et du coup, il y avait plusieurs Allemandes et Allemands aussi. Et ça m'a vraiment aidé au début de rencontrer des gens parce que c'était d'autres Allemands qui avaient du coup le même vécu, les mêmes expériences. Et c'est pour ça qu'au début, j'étais plus en contact avec des personnes allemandes. Et c'est vrai que pour rencontrer des Français, c'était pas directement au début, mais quelques mois plus tard, ou au fur et à mesure. Mais,
Au bout de combien de temps t'as réussi à rencontrer des Français?
Au bout d'un ou deux mois, quand même, je dirais. Okay.
Et comment t'as réussi à rencontrer ces gens? Comment l'occasion s'est créée, du coup?
C'était dans un Irish pub à Nancy. Et c'était un événement qui s'appelle le Café des Langues. Et je peux vraiment, vraiment le recommander pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui sont dans une autre ville. Pour rencontrer des gens, c'est vraiment super. Parce que c'était un événement tous les jeudis soirs dans un bar. Et il y avait plein de personnes de toutes les origines qui étaient vraiment intéressées d'avoir un échange interculturel. Il y avait bien sûr aussi d'autres Allemands, mais aussi des Français qui voulaient aider les gens à apprendre l'anglais, non, le français du coup, ou qui voulaient ou eux-mêmes apprendre l'anglais. Et c'est vraiment là-bas où j'ai, pour la première fois, pu avoir des discussions avec des Français. Et comme c'était tous les jeudis, c'était aussi régulier, et on se voyait toutes les semaines, et on a vraiment créé des amitiés.
Je comprends tout à fait le café de langue parce que c'était aussi mon chemin ici de trouver mes amis, de trouver Jess et de commencer à faire des amis.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, Léonie et moi. Donc. Et du coup, après, une fois que tu as rencontré des gens, donc tu as pu tisser des amitiés, des relations. Notre question, du coup, pour ce podcast, c'est est-ce que tu as pu remarquer des différences entre les amitiés que tu as liées en France et les amitiés que tu as liées en Allemagne? Dans la façon de laquelle on approche les gens, comment est-ce qu'on rencontre des gens et dans l'amitié elle-même, etc. Est-ce que tu as pu remarquer des différences?
Oui, bien sûr que j'ai pu remarquer quelques différences. Une première, c'est par exemple que j'étais plus rapidement invitée chez les Français. Par exemple, une personne que j'ai rencontrée au Café des Langues qui nous a assez rapidement invité chez lui, alors que on ne le connaissait pas encore depuis très longtemps. Et j'avais cette même expérience avec d'autres personnes françaises après, que j'étais assez rapidement invité chez eux, alors que moi, à ce stade de la rencontre, je ne les aurais pas invités chez moi forcément, parce que pour inviter quelqu'un chez moi, il faut un peu plus de connaissances déjà ou de liens. Et ça, c'était une première différence, par exemple.
Et est-ce que tu penses que ça, du coup, c'est une différence liée à la culture? Est-ce que tu dirais que c'est comme ça, en général, en Allemagne, d'inviter moins souvent? Enfin, de ne pas inviter directement les gens?
Oui, je dirais que oui. Parce que moi, en Allemagne, quand j'ai rencontré de nouvelles personnes, on s'est plutôt vu ailleurs. En ville, par exemple, et pas directement chez la personne ou chez moi. Ça, c'était plutôt avec des amis un peu plus proches déjà, que je connaissais déjà depuis plus longtemps. Donc, je dirais que c'était une différence culturelle, oui.
Et donc, tu as parlé de plusieurs différences. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux, du coup, nous raconter?
Oui. Une chose qui m'a assez rapidement choquée, ou pas vraiment choquée, mais surpris en France, c'était évidemment la spontanéité.
La spontanéité,
oui. On dit souvent que les Allemands ne sont pas spontanés et que d'autres personnes de d'autres cultures le sont beaucoup plus. Et j'ai vraiment vécu ça à Nancy, en France, que les Français et les Françaises étaient beaucoup plus spontanés. Et au début, ça m'a vraiment stressée parce que moi, je n'étais pas une personne spontanée, pas du tout. J'aimais bien savoir ce que je fais le week-end, la semaine prochaine. Ça me stressait de ne pas savoir ce que je veux faire le jour même, par exemple. Et ça, c'était une grande différence.
Oui, je pense que c'est très typique pour les Allemands de vouloir planifier tout.
Oui. Et donc, au début, par exemple, je demandais plus, « Ah, mais du coup, on fait quoi demain ?» comment on va faire la semaine prochaine, si on veut aller là. Et les réactions des personnes étaient toujours, ah mais on verra, ça va aller.
Ouais.
Ah mais c'est la semaine prochaine, donc...
On a le temps,
voilà.
Ok, oui, ça je vois.
Est-ce que vous avez remarqué une différence concernant la taille des groupes, des amis? Parce que j'ai l'impression que les groupes ici, les groupes d'amis en France sont souvent un peu plus grands que les groupes d'amitié en Allemagne.
C'est
individuel.
C'est assez individuel, oui. Et ça dépend beaucoup des personnes. Même si, c'est vrai que je remarque qu'en France, quand on se rencontre, c'est souvent les gens, c'est des grands groupes d'amis, etc., qui vont en terrasse ou dans un parc. Mmh. Je crois que c'est quelque chose de très individuel.
Et est-ce que vous avez pu remarquer les différences en ce qui concerne le lien entre deux personnes, vraiment une amitié à deux, et aussi les discussions?
Ben justement, alors en ce qui me concerne, j'ai pu observer à plusieurs reprises que les Français ont tendance à faire beaucoup de small talk et que c'est pas aussi facile de rentrer dans des sujets assez profonds, assez sérieux, que c'est quelque chose qui va prendre plutôt du temps.
Ouais, je me suis demandé pourquoi est-ce que les Français veulent rester superficiels, peut-être à cause de la politesse française ou...
Ah oui, non, j'avais déjà entendu ça à plusieurs reprises, que c'est quelque chose dans la culture française qui existe, cette méfiance vis-à-vis des autres, dans le sens où on a peur que si on donne des détails de notre vie privée, que les autres puissent les utiliser contre nous. Et que c'est aussi le cas, par exemple, dans le milieu du travail, où les gens ne vont pas toujours raconter des aspects de leur vie privée, s'ils sont en couple, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants. On ne va pas forcément raconter ça directement. Et ça va prendre du temps, parce qu'il y a une sorte de méfiance, en fait.
Oui, rester discrète. Et,
Oui. J'ai remarqué ça, mais je pense aussi à un autre aspect. C'est l'humour.
Oui.
Parce que pour moi... Il y a vraiment un humour français qui est très spécial et que je ne capte toujours, enfin pas toujours en tout cas. Et j'ai pu remarquer que dans les situations en groupe, l'humour joue un grand rôle, avec le second degré aussi par exemple. Et peut-être que c'est justement en raison de la présence de l'humour que ces discussions en profondeur sont moins effectuées.
Donc, en gros, que l'humour français laisse moins de place à des discussions sérieuses et à des sujets plus profonds.
Justement, si l'humour est beaucoup présent, on entre moins en profondeur. Ça reste plus à la surface. Enfin, ouais. C'est drôle, mais...
C'est plus superficiel.
C'est pas très personnel, déjà, et ça reste un peu superficiel,
je vois.
Des fois.
Alors jusqu'ici, on a parlé beaucoup de cet aspect culturel et maintenant, je me suis demandé, est-ce qu'il existe aussi une certaine barrière linguistique? Emma, est-ce que tu as fait des expériences avec la langue française? C'est pas ta langue maternelle. Est-ce qu'il y a des problèmes concernant l'amitié?
Oui, c'est vrai que c'est pas ma langue maternelle, mais pour moi, au Café des langues, par exemple, c'était plutôt un atout, parce que pour moi, la langue étrangère, c'était comme si je mettais un masque, un peu, si on peut le dire comme ça. Et ça m'a aidé à rencontrer des gens et à entrer dans les discussions et tout.
C'est intéressant pour moi, parce que moi, j'ai pensé toujours que c'est difficile de montrer sa propre personnalité avec une langue qui n'est pas la langue maternelle. Est-ce que c'était difficile pour toi de jouer avec l'humeur ou
C'est vrai que c'était pas la même personnalité que quand je parle allemand, mais j'ai préféré cette autre personnalité française au Café des langues et pour l'humour. Oui, c'est vrai, ça c'était plus difficile au début. Quand on gère pas très bien une langue, on ne peut pas vraiment faire des blagues ou, par exemple, exprimer du sarcasme, de l'ironie. Ça, c'est dur, oui. Ce que je trouvais un peu dérangeant après un certain temps, ce n'était pas au tout début, mais plutôt vers la fin d'année, c'était qu'à chaque rencontre, c'était un peu la même discussion avec une personne française. En mode, ah, t'as un petit accent, non? Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? Combien de temps tu restes ici? Et à un moment donné, j'avais juste marre de parler toujours de la même chose. Et j'avais aussi l'impression que des fois, les personnes ne s'intéressent pas vraiment à moi, à ma personnalité, à ma personne, mais juste au fait que je sois allemande et à l'Allemagne, à cette différence culturelle. Donc, vers la fin d'année, j'avais vraiment envie d'avoir des discussions avec, avec des personnes qui s'intéressent à moi et pas à ma culture.
À ta personnalité plus que ta langue ou
plus
ou ton qu'à
pays, la nationalité.
Oui. Dans mon cas, la barrière de la langue, ça a été aussi un sujet. Au tout début, surtout quand je pouvais presque pas parler allemand. Enfin, j'avais un niveau très faible. Et je me suis rendu compte que, en fait, je réfléchissais beaucoup avant de formuler une phrase. Ce qui faisait que j'avais pas le temps souvent de formuler une phrase et qu'on avait déjà changé de sujet ou que le moment. J'avais raté l'occasion, en fait, d'avoir une discussion avec quelqu'un parce que j'avais réfléchi à la phrase au lieu de la dire directement parce que j'avais peur de faire une faute. Ce qui faisait que j'ai souvent manqué d'occasion de commencer une discussion avec des gens, de rencontrer des gens. Et puis, justement, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il fallait faire des fautes pour apprendre la langue.
Oui, j'ai vécu ça aussi dans des groupes. Ça, c'est frustrant, oui. Ou quand tu veux dire quelque chose... Et une autre personne dit la même chose, mais elle est langue maternelle, donc elle le dit plus rapidement et mieux que toi.
Moi, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de montrer son caractère. Se rappeler que le caractère, ce n'est pas seulement la langue et les mots et l'humour.
Oui, qu'il y a d'autres moyens de montrer sa personnalité en dehors de la langue.
Oui.
Tu as des exemples?
Pour montrer ma caractère, mon style de mode.
Vestimentaire.
Oui.
Oui,
oui.
C'est bien ça.
Ouais.
Par exemple, et toi?
Moi, c'est surtout l'humour. C'est pour ça que ça a été compliqué dans une autre langue, parce que j'avais du mal. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence d'humour entre les Allemands et les Français.
Oui.
On rigolait pas des mêmes choses, au même moment et de la même façon. Ce qui fait que je faisais des blagues qu'on fait en généralement en France et qui me permettaient de créer du lien avec les personnes en France, mais qui ne fonctionnaient pas en Allemagne. Enfin, en tout cas, pas au début.
Ouais.
Et est-ce que tu te sens différente quand tu parles allemand ou français aussi à cause de l'aspect de l'humour qui n'est pas le même dans les deux langues?
Est-ce que tu as un deuxième âme?
Un deuxième âme?
Âme.
Ah, une deuxième âme. Qu'est-ce que âme, le bras. J'ai en effet deux personnalités différentes selon si je parle allemand ou français, mais c'est pas forcément lié à l'humour.
Je pense que c'est assez normal aussi d'avoir deux personnalités, et je le vois aussi quand toi tu parles l'allemand ou le français, et je le remarque aussi pour moi-même. Et je pense qu'il y a la voix aussi qui change un peu, et ça c'est intéressant justement, je trouve. La question de la langue dans les amitiés, surtout avec des personnes qui sont bilingues. Quand on est ami avec d'autres personnes bilingues, on peut parler les deux langues et changer de langue. Et à chaque fois qu'on fait ça, j'ai l'impression que c'est une autre situation, une autre interaction, une autre discussion. Et que je ne parle pas avec les mêmes personnes, si on peut dire comme ça. Des fois, c'est assez... extrême, le changement, et je le vois aussi pour moi. Mais je trouve que c'est tellement une richesse que ça enrichit l'amitié, parce qu'on on se connaît encore plus grâce à ça, et on peut aussi beaucoup s'entraider à apprendre l'autre langue, évidemment.
Du coup, ce que tu viens de raconter un peu sur les masques et sur le fait d'être différentes personnes quand on parle une langue différente, ça me fait penser à une citation qui est assez connue, qui dit que parler une autre langue, c'est avoir une autre âme.
Ah oui, je pense que c'est de Charlemagne et d'Aix-la-Chapelle, c'est le père d'Europe.
Je trouve que c'est une belle conclusion.
Ça m'a fait plaisir de parler ça avec vous.
Ben, merci.
Dans ce petit groupe franco-allemand.
Merci Emma.
C'était chouette.
Lorsque l'on s'ouvre à un autre pays, à ses habitants et à sa langue, on est inévitablement confronté à des différences culturelles, mais aussi à une certaine barrière linguistique. À première vue, les Allemands peuvent sembler moins spontanés, tandis que les Français ont besoin d'un peu plus de temps pour se livrer à des conversations plus profondes.
En plus, on a tendance à se comporter différemment dans différentes langues, voire à ressentir et à penser différemment. Dans une amitié internationale où les deux personnes maîtrisent la langue de l'autre, on apprend donc à se connaître à un tout autre niveau. D'après notre propre expérience et celle d'Emma, nous pouvons affirmer que cela vaut la peine de nouer une telle amitié et que l'on grandit ensemble grâce à elle. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous vous disons tchuss et
au revoir.